I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité des grands championnats européens. Je suis Arthur Merle, journaliste à Eurosport, et je suis très content encore une fois de vous retrouver ce lundi pour une émission presque spéciale PSG-Barça. On va en effet en parler beaucoup de ce quart de finale de Ligue des Champions entre les deux équipes mercredi soir au Parc des Princes. On va en parler côté français avec Elton qui va décortiquer ce PSG et les derniers doutes qui entourent la composition de départ de Luis Enrique. On va en parler côté espagnol avec Ana Caro qui va nous parler des forces en présence, des retours de blessures et de la confiance ou non qui accompagne les Blaugrana. Et puis on va faire un petit mix entre Ana et Elton, un mix de leurs 11 en tout cas. On a imaginé les meilleurs 11 possibles entre le PSG et le Barça. C'est le petit bonus de cette semaine dans Tour d'Europe. On ira ensuite faire un tour en Première Ligue, un sacré tour parce qu'il y a des choses à dire encore une fois sur la course au titre dingue que nous offre l'Angleterre du football. Liverpool a lâché des points ce week-end à Manchester. Arsenal reprend la tête. Comment cette course va se jouer? On va voir que ça peut se jouer sur des questions de calendrier. Et puis on fera un gros focus avec Philippe sur Kevin De Bruyne. Encore magistral contre Crystal Palace. Quelle place il faut donner à De Bruyne dans l'histoire de City, dans l'histoire du football anglais? On lui posera la question. Voilà pour ce programme bien chargé. Le rappel, c'est toujours le même. Tour d'Europe est à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club. Et puis les meilleurs moments de l'émission seront à retrouver en vidéo, notamment donc les 11 combinés d'Anna et Elton. Voilà, on est prêt, on peut y aller. Allez, on commence ce Tour d'Europe en France. Et aujourd'hui, ce lundi, Elton est avec nous. Salut Elton, comment tu vas?
Salut Arthur, écoute, je vais très bien, très content d'être ici dans la perspective d'une grande semaine pour nos clubs français avec trois clubs français.
Effectivement, on va avoir beaucoup de choses à dire sur la course à l'Europe. Mais quand même, pour commencer, un petit mot de Ligue 1 parce qu'il s'est passé des choses intéressantes ce week-end, notamment dans la course à l'Europe. On a un top 4 qui commence à se dessiner assez clairement, Elton.
Ouais, Arthur, on a vraiment le sentiment que là, on est sur un week-end bascule quand on parle du top 4, à savoir Lille qui s'est imposé face à Marseille, qui avait une dernière opportunité de viser la Ligue des Champions. Monaco qui a battu Rennes, première victoire à la maison depuis le mois de décembre. Et enfin, Brest qui a remporté un match spectaculaire. Brest qui s'est fait peur parce qu'à un moment donné, il menait 4-1. Enfin, on parle de trois équipes qui ont gagné à la différence des autres concurrents. Donc par rapport à ça, on a une vision beaucoup plus claire sur le top 4 qui pour moi me paraît acté. Mais après, encore une fois, les matchs sont faits pour être joués. L'année dernière, on a eu un précédent avec Monaco qui avait un bon paquet de points d'avance. Finalement, ils se sont écroulés. Donc je pense qu'un Monaco averti en vaut deux.
Derrière, ça peut être un petit peu la foire pour les 5, 6 et même 7e place qui peut être qualificative sous condition pour la Ligue Europa Conférence. Il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche et assez peu d'équipes régulières finalement.
En fait, j'ai le sentiment que la première équipe qui va gagner un match aura une option parce que ça démontre bien que déjà quand on voit la moyenne de points, c'est à moins de 2 points. Donc c'est quand même un indicateur qui est quand même très important. Et pour revenir sur la bataille de la Coupe d'Europe, enfin sur la Coupe d'Europe, Ligue Europa et Conference League. C'est vrai qu'on a des équipes qui ne sont pas en capacité de se distinguer, des équipes qui sont engluées dans des dynamiques qui ne sont pas vraiment bonnes. Nice a fait un match nul, Marseille a perdu, Lens a fait match nul contre le candidat au maintien. Donc tout ça, ce n'est pas de bon augure pour le sprint final. Et maintenant, il va falloir gagner des matchs.
Bon, il y a une autre équipe qui a perdu quelques points, mais c'était très anecdotique. C'est le Paris Saint-Germain face à Clermont. Alors, match nul, on l'a dit anecdotique, parce que ce qui nous intéresse, Elton, et on ouvre la grosse page de ce Tour d'Europe, c'est le Paris Saint-Germain FC Barcelone qui nous attend mercredi en quart de finale de Ligue des Champions. Elton, une première question assez basique. Comment est-ce que tu sens ce Paris Saint-Germain au moment d'aborder jusqu'ici le moment le plus important de sa saison?
Il y a quand même des inconnus. Il y a des inconnus générés par le fait que il y a personne qui se détache, notamment sur des postes clés. J'ai envie de dire la charnière centrale. Bah, c'était Danilo Skriniar. Bon, et ça risque de ne pas être Danilo Skriniar, mais toujours est-il que quand on parle de la charnière centrale du PSG, c'est pas de nature à te rassurer. Même la construction du 11 de départ ne m'incite pas à un grand optimisme. Néanmoins, et c'est la réalité de ce PSG, c'est que tu as un collectif qui a une capacité justement à répondre présent à l'instant T. Et ça, on ne pourra pas leur reprocher. Il n'y a qu'à voir la gestion de tous les matchs. On pourrait dire, ouais, Dortmund, ils ont fait match nul. Mais quand on regarde la réalité du match, ils ont eu beaucoup d'occasions. La double confrontation contre la Real Sociedad, on peut me dire ce qu'on veut sur la dynamique de la Real Sociedad. Ce n'était que la Real Sociedad. Ouais. Enfin, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu le PSG aborder avec sérénité une double confrontation. Moi, je pense qu'à la différence des années précédentes, ça peut être le salut du PSG, cette capacité justement à répondre présent sur les grands événements. Maintenant, je dis ça, je peux être démenti la semaine prochaine.
Tu m'as un petit peu devancé sur la question de la compo de départ du Paris Saint-Germain. On l'a dit, il y a quelques inconnus. La composition de la charnière, puisque pour le coup, Luis Enrique, sauf Presnel Kimpembe, il a tout son effectif au complet. L'absence d'Achraf Hakimi qui sera suspendu pour le match aller. On va commencer par là. Quelles sont, selon toi, les meilleures options pour composer la meilleure charnière possible en prenant en compte le fait que Hakimi ne sera pas là aussi, ce qui peut avoir un impact, notamment dans le cas Marquinhos, peut-être.
Il y a une réalité quand on parle de la charnière centrale, Arthur, c'est que on peut enlever Marquinhos qui paraît légèrement au-dessus, quand bien même Marquinhos est critiqué et critical, mais derrière, on est quand même sur un ensemble homogène. Donc au moment de dessiner une charnière centrale, ce n'est pas quelque chose d'évident, dans la mesure où il y a une charnière centrale qui, à la différence du Barça, ne s'impose pas d'elle-même. Donc il y a aussi l'identité du latéral droit qui peut avoir une influence. À partir du moment où Hakimi est suspendu, à partir du moment où Mukiele, bon, même s'il avait moins de protagonisme, est soumis à un protocole de commotion. Donc c'est vrai qu'au moment de parler de l'identité du latéral droit, moi je serais tenté de dire que Luis Enrique va titulariser Marquinhos sur le côté droit. Ce qui redistribue encore les cartes au sujet de la charnière centrale. Donc moi je pense qu'il partira sur Danilo Beraldo et Marquinhos sur le côté droit.
D'accord, donc et latéral gauche, tu verrais plutôt Nuno Mendes ou Lucas Hernandez?
Alors latéral gauche, je pense qu'il partira sur Lucas Hernandez.
Ok.
Je pense qu'il partira sur Lucas Hernandez à partir du moment où c'est l'option qui a été longtemps privilégiée. Et Nuno Mendes qui revient de blessure, faut pas oublier que pendant 9 mois il a été absent, il a connu des pépins physiques en sélection avec le Portugal. Donc moi je pense que par rapport à l'idée d'être compétitif de la première jusqu'à la 90e minute, bon, même si Nuno Mendes peut rentrer comme il l'avait fait par exemple face à Montpellier, bon, les gens diront que ce n'était que Montpellier. Moi, je pense que Nuno Mendes peut être davantage vu comme un joker, et un joker qui peut être très important parce que Nuno Mendes a une capacité justement à changer le rythme des rencontres.
Et puis c'est vrai que la fiabilité défensive de Lucas Hernandez pour le duel possiblement à venir avec Lamine Yamal peut être intéressante. Si on monte un cran, même de deux crans dans le terrain, on va s'intéresser aussi à l'attaque du Paris Saint-Germain. Il y a deux hommes qui sont à peu près sûr de commencer, c'est Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. L'identité du troisième, alors, selon certains observateurs, elle est assez claire, ce serait Lee Kang-in, mais je me permets d'émettre un doute quand même. Est-ce que toi, c'est clair? Est-ce que Gonçalo Ramos peut entrer dans la discussion?
Il y a même un troisième homme.
Randal Kolo Muani,
bon. En fait, il y a une réalité qui est bien différente. Alors, Lee Kang-in a la particularité d'être l'option la plus fiable. À partir du moment où sa rentrée face à la Real Sociedad au match retour avait été crédible, il avait été décisif. Donc, par rapport à ça, on se dit que ce serait l'alternative la plus sûre. Gonçalo Ramos, c'est davantage par rapport à son poste spécifique, son poste d'avant-centre. On parle d'un joueur, d'un attaquant qui est en confiance, mais encore une fois, c'est dans une configuration bien établie à partir du moment où tu as un Paris qui domine les adversaires. Là, est-ce que tu seras en capacité de le faire face au Barça? Est-ce que c'est le profil le plus indiqué? Là-dessus, je ne suis pas persuadé. Randal Kolo Muani a la particularité d'être attaquant, mais il peut couvrir plusieurs postes, notamment le poste d'ailier droit. Moi, je me dis que dans la perspective où Luis Enrique, dans cette idée d'avoir une supériorité numérique au milieu de terrain, va remettre Dembélé dans l'axe, ce qui ouvre une option pour Kolo Muani parce qu'il a cette capacité d'attaquer des espaces. Il est quand même très travailleur sans ballon. Donc moi, je pense que c'est une option à ne pas écarter. Si je devais faire un ranking à Arthur, je dirais Lee Kang-in et Kolo Muani en 2, Gonçalo Ramos en 3. Maintenant, Luis Enrique est capable de nous démentir.
Effectivement, c'est même sa spécialité de nous surprendre et surtout de surprendre ses adversaires. C'est ce qui importe. Tu as parlé de Ousmane Dembélé. Intéressant ce cas-là parce qu'il retrouve son ancien club, le FC Barcelone. Il y a pas mal de choses à dire là autour, tant sur la symbolique des retrouvailles que sur le rôle clé qu'il pourra avoir dans ce match d'un point de vue tactique selon comment Luis Enrique le positionne.
C'est vrai que c'est le premier match d'Ousmane Dembélé face au PSG depuis son départ. Il avait un peu filé à l'anglaise, à l'espagnol, à la catalane, on pourra dire ce qu'on veut, à partir du moment où il était parti début août, alors que le Barça fondait de grands espoirs en lui par rapport au fait que c'était un joueur qui était très important pour Xavi. Xavi le considère vraiment comme un joueur qui était éminent important par rapport au fait que Ousmane Dembélé était dans une optique de prolonger. Finalement, non seulement il n'a pas prolongé, et ensuite il est parti, donc ça va être un retour qui sera particulier parce que c'est vrai que Ousmane Dembélé, qui est quand même le deuxième plus gros transfert de l'histoire du Barça, ça a été quand même les montagnes russes et pas forcément de la meilleure des manières pour Ousmane Dembélé au Barça. Et ensuite, c'est vrai que son apport tactique peut être très important parce que la bataille du milieu de terrain entre deux coachs espagnols, c'est quelque chose de primordial. Et on sait que dans cette idée de contrer la supériorité numérique, à l'instar de ce qui a été fait contre la Real Sociedad, à l'instar de ce qui a été fait contre l'Olympique de Marseille, Ousmane Dembélé, dans cette capacité à jouer dans l'axe, d'être un joueur libre, d'être un joueur qui va faire vivre le ballon, pour être très important.
On va continuer de parler tactique, on va continuer de parler composition d'équipe, mais comme promis en introduction, on va le faire à trois, puisque Anna Caro va nous rejoindre et on va vous dévoiler ce petit bonbon, ce petit bonus de la semaine, à savoir le 11 combiné du PSG et du Barça, vu par Elton et vu par Anna. C'est tout de suite. On poursuit donc ce Tour d'Europe en compagnie d'Anna Caro. Salut Anna, salut. Merci de nous rejoindre aussi sur le plateau de Tour d'Europe. Et comme promis, on va passer donc à ce petit bonus du Tour d'Europe de cette semaine, à savoir le 11 combiné PSG-Barcelone, Delton et Dana. Je vais lister les 11 que vous m'avez envoyés au moment de la préparation de cette émission et ensuite je vais vous laisser vous justifier. On commence par toi, Elton. Donc je précise que ce sont deux 11 en 4-3-3. Elton, ton 11, c'est le suivant. Donnarumma dans les cages. Koundé, Araujo, Kubarsi, Lucas Hernandez en défense. Un trio De Jong, Gundogan, pointe basse, et Pedri au milieu de terrain. Et puis Yamal, Lewandowski et Mbappé devant. À toi la main, Elton. Comment tu peux justifier tes choix avec notamment beaucoup de Barcelonais par rapport au Parisien?
Pour des raisons très simples. Alors, dans les buts, Donnarumma, pour moi, est un joueur qui est déterminant aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Pour moi, ça a été le meilleur Parisien sur la phase de poule. Et donc, par rapport à ça, ça me paraît logique de le mettre en avant. Latéral droit, alors, il y a quand même un astérisque dans la mesure où Hakimi est suspendu. Donc
oui, on précise qu'on n'a pas pris en compte les joueurs suspendus ou blessés dans les deux 11.
Exactement, donc par rapport à ça, j'ai mis Koundé par rapport à la dynamique du moment. La charnière centrale, c'est cohérent par rapport à ce que j'ai dit au sujet du PSG, sa charnière centrale qui diffusait beaucoup d'inquiétude. Il n'y avait pas une charnière centrale qui se détachait, ce qui fait écho à quoi? Ce qui fait écho au fait que du côté du Barça, bah, il y a une charnière centrale qui se distingue. Du côté gauche, j'ai mis Lucas Hernandez parce que Lucas Hernandez, en dépit du fait que c'est une deuxième partie de saison qui est moins satisfaisante, je mets quand même en avant que sur les matchs importants, il répond souvent présent. Donc pour moi, c'est une assurance par rapport à un Cancelo qui, pour moi, est plus talentueux, certes, mais il y a beaucoup plus d'incertitude sur sa capacité à répondre dans les grands événements. Au milieu de terrain, j'aurais pu mettre Vitinha à la place de Pedri, mais j'ai quand même mis en avant Pedri parce que ça reste un joueur qui est fondamental pour le Barça et qui pourra avoir son influence en fonction de ce qui va se passer sur 180, voire 210 minutes. Gundogan, qui est le meilleur blaugrana cette saison, sa place ne se justifie pas, entre guillemets, pour moi. En point de basse, j'ai mis Frenkie de Jong. Alors, c'est un choix qui est quand même corsé dans la mesure où il n'y a personne qui se détache en point de basse, parce que dans l'absolu, si on veut parler de point de basse au Barça, ouais, on met Christensen. Et du côté du PSG, c'est quand même très tournant entre Fabian Ruiz, Ugarte, il n'y a personne qui se distingue vraiment. Et je n'allais pas mettre Zaïre Emery en point de base, dans la mesure où il n'est pas point de base. Donc j'ai mis de manière circonstancielle Frenkie de Jong. En attaque, j'aurais pu mettre Ousmane Dembélé. J'y ai pensé d'ailleurs, il était dans ma première composition, mais je l'ai sacrifié au dernier moment parce que je voulais mettre Lewandowski. Donc j'ai mis Yamal sur le côté droit, par rapport au fait que depuis le mois de janvier, c'est pour moi le meilleur derrière Gundogan. Sur le côté gauche, j'ai mis bien évidemment Kylian Mbappé parce que pour moi, ça va être le joueur le plus important des 22 sur la double confrontation. Et en pointe, j'ai mis Lewandowski parce que j'ai quand même besoin d'un avant-centre. Et Lewandowski est quand même sur une dynamique récente qui est très intéressante.
Je me tourne vers toi maintenant, Anna. Pas mal de différences entre vos deux 11. Je le disais, c'est toujours un 4-3-3. Je le liste, tu as choisi Ter Stegen au cage, une défense Cancelo à droite, Marquinhos, Kubarsi, Nuno Mendes, Zaïre Emery, Gundogan et De Jong au milieu de terrain, et un trio d'attaque, Yamal, Mbappé, Dembélé. Et bah, toi, te justifie, Anna.
Déjà, le duel entre Ter Stegen et Donnarumma était assez compliqué parce qu'on est quand même sur deux gardiens qui font des grosses saisons. Et les deux ont sauvé plusieurs fois leur équipe dans des matchs importants. Donc, c'était un choix plutôt sur le style de jeu parce que la relance au pied de Ter Stegen est quand même bien agréable. Oui. Après, j'ai choisi Cancelo et Nuno Mendes pour avoir un 11 un peu plus créatif, plus offensif sur les côtés parce qu'au milieu de terrain, bah, on manque un peu d'un artiste. Donc, il faut que ça vienne d'ailleurs. Cancelo qui fait quand même une belle saison, qui est quand même souvent là dans les gros matchs, même parfois décisif, qui va marquer. Nuno Mendes, bon, c'est un peu de circonstance parce qu'on ne sait pas vraiment quel va être son niveau sur la longueur, mais il revient très très bien. C'est pareil pour la charnière, j'ai hésité beaucoup avec Araujo aussi, mais vu que ce qu'on a vu depuis le début de saison de côté du Barça en défense centrale n'était pas loin d'être safe, c'était un peu compliqué de capitaliser sur une défense 100% Blaugrana, donc voilà pourquoi j'ai choisi Marquinhos, mais pour autant Araujo aurait pu faire à peu près pareil parce qu'on n'est pas sur deux monstres actuellement à leur poste. Et sur le milieu de terrain, bah, évidemment on est d'accord sur De Jong et Gundogan, sans vraiment de surprise, surtout que De Jong là devrait revenir, donc il devrait même commencer titulaire. Et puis bah, Zaïre Emery, j'étais plutôt en balance avec Gavi moi plutôt que Pedri, parce que la saison de Pedri cette saison n'est pas incroyable parce qu'il a joué très peu de matchs, qu'il était souvent pas dans le rythme, etc. Donc Zaïre Emery, pareil, plutôt de circonstances, parce que si on prend le joueur dans sa capacité globale, je pense que je prendrais Pedri, mais aujourd'hui on ne sait pas trop quel est son niveau. Et une attaque avec évidemment Yamal, Mbappé et j'ai gardé Dembélé et j'ai pas sacrifié pour mettre Lewandowski parce que voilà, ça fait une attaque très mobile, très très football moderne, un peu ce qu'on peut voir comme côté du Real Madrid cette saison et qui peut être très intéressante à voir parce que Dembélé dans les gros matchs il est parfois pas décisif, mais c'est aussi le cas de Lewandowski parfois surtout cette saison.
Est-ce que sur ce dernier choix c'est plus une question de profil selon toi en attaque, ou c'est un petit désaveu aussi pour un Lewandowski que tu trouves peut-être moins dominant qu'à une époque?
Oui, c'est vrai que cette saison Lewandowski est loin du niveau qu'il avait affiché déjà sur ses premiers matchs avec le Barça, sa première saison avec le Barça. Mais après on peut pas dire non plus que Dembélé soit flamboyant, il est créatif, au moins il amène de la percussion, des balances devant, etc., qui peuvent être très importants. Et c'est vrai qu'au niveau de la participation dans le jeu, par exemple si on prend Lewandowski, il est beaucoup à contre-temps cette saison, donc au moins Dembélé peut être décisif devant.
Peut-être un dernier point, parce que alors, vous avez tous les deux fait un choix qui avait l'air clair comme de l'eau de roche, qui moi m'a un petit peu surpris, c'est Kubarsi, titulaire indiscutable selon vous deux en défense centrale. Il y a pourtant de la concurrence et du monde à ce poste-là dans les deux équipes. Je me tourne vers toi, Elton. C'est très clair pour toi, Kubarsi, c'est déjà un joueur niveau quart Ligue des Champions.
Bah, c'est qu'il a changé la réalité de la deuxième partie de saison du Barça. Il a structuré cette équipe, autant défensivement, bien évidemment, parce que ça reste un défenseur central qui est là pour défendre et on connaît son goût pour le duel, mais aussi offensivement, notamment par sa qualité de relance. Il y a une stat qui était passée face à Las Palmas. Le joueur qui a donné le plus de ballons à Lewandowski s'appelait Kubarsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où il arrive à casser le pressing adverse, et ben ça paraît beaucoup plus facile pour Barça de s'installer dans le terrain adverse, parce qu'en première partie, le Barça était déficitaire là-dessus. Et là, Kubarsi, il a eu le mérite d'apporter ça. Donc, par rapport au fait qu'il est sur une dynamique qui est très importante, par rapport au fait qu'il a découvert récemment la sélection espagnole, moi, sur la dynamique du moment, parce que j'ai privilégié la dynamique du moment, sauf sur certains choix, Kubarsi me paraît être le choix le plus safe. Et c'est quand même fou de se dire ça, parce que dans l'absolu, on parle d'un joueur qui a 17 ans.
Ouais. Et 10 matchs en pro.
Ouais, c'est ça.
Bon, très intéressant en tout cas, parce qu'on avait deux 11 différents et j'imagine qu'il y aura autant de 11 différents que d'auditeurs ou de personnes qui vont voir cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ces 11, Anna Elton. Merci à toi, Elton, pour ton analyse du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1. Et on va continuer tous les deux, Anna, pour parler plus en détail de ce FC Barcelone. On a parlé du PSG, on a parlé d'un 11 combiné PSG-Barça. Il est maintenant l'heure de se concentrer uniquement sur le FC Barcelone, adversaire des Parisiens mercredi soir. Anna, on va commencer par peut-être un petit état des lieux, des forces en présence mercredi. On a commencé à l'évoquer un petit peu plus tôt dans vos compos avec Elton. Quels sont les joueurs aux états physiques peut-être incertains de retour? Est-ce qu'il y a aussi encore des doutes dans la compo de départ?
Alors sur l'infirmerie, c'est plutôt beaucoup de bonnes nouvelles hein, pour le Barça parce qu'il devrait normalement compter sur les retours de Christensen du coup, mais surtout Frankie de Jong et ouais. Pedri qui sont quand même deux éléments clés au milieu de terrain et on envisage déjà que Frankie de Jong soit dans le 11 titulaire. Alors c'est pas vraiment la même blessure que Pedri, parce que lui Pedri c'était une rechute musculaire, donc évidemment on prend plus de précautions, c'est très peu probable que Pedri soit titulaire contre le Barça, alors que Frankie de Jong c'était un os cassé, donc du coup évidemment c'est pas les mêmes retours, ouais. Et il devrait revenir lui contre le PSG, c'était le meilleur milieu de terrain du Barça en début de saison, donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Christensen lui il a un peu perdu sa place vraisemblablement dans ce 11, il était titulaire hein, en charnière centrale en début de saison, et là il était passé progressivement à jouer numéro 6, ouais. Justement en l'absence de Frankie de Jong, et là il devrait lui être de retour mais sur le banc, donc voilà. Sur le 11, il y a encore pas mal de doutes. La presse catalane ne s'amuse pas trop à avancer un 11 parce qu'ils entendent que peut-être Xavi va faire quelques changements inespérés, inattendus. Peut-être changer son format aussi de défense, avoir une défense plus individuelle que par ligne. Donc il y a beaucoup de doutes pour l'instant. Et même si on prend du côté ouais, de la presse catalane, on a... Enfin, personne qui s'est avancé jusque-là pour dire bah voilà, ce sera ce 11 qui sera aligné au Parc des Princes. Il y a des bonnes nouvelles, des bons échos sur les retours de blessures, mais c'est tout. On sait juste que Gavi et Alejandro Balde, eux, sont sûrs de ne pas être là puisqu'ils sont blessés jusqu'à la fin de saison.
Y a un élément à prendre en compte dans ce match, c'est les potentiels suspendus au match retour. Il y en a 7, oui. À savoir De Jong, Christensen, João Félix, Sergi Roberto, Araujo, je prononce bien cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, Ferran Torres et Lamine Yamal. Est-ce que ça peut jouer, selon toi, dans la manière d'aborder ce match? Parce qu'on parle quand même de plusieurs titulaires potentiels.
Alors, c'est sûr que ça va jouer, et surtout sur des joueurs comme Araujo, par exemple, qui risque, lui, d'être aligné titulaire, parce que si on prend la dynamique récente, c'était tout le temps lui et Pau Cubarsí. Et on sait que il peut avoir un jeu parfois assez dur sur l'homme, ouais. Et que ça pourrait le limiter justement dans sa défense et notamment sur un Kylian Mbappé. Donc c'est sûr que ça va avoir une incidence. À voir comment c'est géré par le staff aussi, parce qu'on a des joueurs parmi les potentiels suspendus qui ne sont pas des titulaires indiscutables. Donc ça va sûrement jouer aussi dans la tête de Xavi et son staff pour savoir. Qui on met titulaire. Ouais. Pour autant, il y a des joueurs même comme Lamine Yamal qui vont sûrement être alignés, peu importe les risques que ça en coûte, parce que c'est des joueurs qui sont devenus, et Frankie de Jong aussi, trop importants pour le Barça pour s'en priver. Donc on verra, mais il y a malgré tout quelques joueurs dans cette liste qui vont être alignés à leur risque et péril, quoi.
Tu as commencé à parler de Lamine Yamal. Il a fait une sortie, la jeune pépite barcelonaise, il y a quelques jours dans Mundo Deportivo. Une interview qui a beaucoup fait parler parce qu'il s'y est montré assez confiant finalement, en s'avançant sur une victoire barcelonaise au Parc, avec lui comme unique buteur potentiel de la rencontre. Déjà, est-ce que cette interview, est-ce que ces propos ont été bien reçus de manière générale en Espagne? Ou est-ce qu'on s'est dit il ferait mieux d'être un peu plus discret?
En Espagne, c'est évidemment partagé, parce que si on prend la presse pro-madrilène, évidemment, elle trouve que le joueur du Barça en fait beaucoup trop et qu'il se prend un peu pour Messi, par exemple, alors que, ouais. Bon, il a encore beaucoup de choses à prouver. Mais côté catalan, ça a été plutôt bien reçu, parce qu'en fait, ces derniers temps, on a eu beaucoup de joueurs du Barça qui avaient plutôt peur de ces matchs de Ligue des Champions, parce qu'il y a eu les traumatismes des remontadas, parce qu'il y a eu les matchs perdus contre le Bayern. Et c'est vrai que la Ligue des Champions, à Barcelone et en Catalogne, elle est souvent évoquée avec de la peur. Et il y a encore des joueurs dans l'effectif actuel qui ont connu ces périodes très compliquées en Ligue des Champions pour le Barça. Donc l'ambition que peut montrer Lamine Yamal est plutôt reçue de façon positive par la presse, par les supporters d'autant plus, parce qu'ils se disent, bah voilà, il a 17 ans et il s'en fiche en fait, il est là, il est prêt à tout casser, peu importe l'adversaire en face. Et on l'a très bien vu d'ailleurs quand il jouait avec l'Espagne contre le Brésil, c'était le Brésil en face, ça lui a pas vraiment fait peur. Donc ça a été plutôt bien reçu, et ça a été plutôt bien reçu d'autant qu'en fait il avait déjà fait une déclaration plutôt similaire, ouais, au moment même du tirage, quand on l'avait interrogé sur qu'est-ce que ça signifiait pour lui de jouer contre le PSG. Il avait déjà dit, bah moi je rêve d'être buteur contre le PSG, d'offrir la qualification au PSG. Là il se voit en unique buteur peut-être, mais dans tous les cas il avait déjà cette ambition, et il avait déjà un peu répété cette chose de, bah moi je vais marquer contre le PSG. Donc à voir si ça se réalise ou pas, mais enfin il est plein de confiance et c'est un peu dans son habitude de communication, et c'est bien reçu côté Barça, peut-être moins côté PSG.
C'est intéressant ce que tu dis sur la peur du côté du Barça, parce que vu de France, la peur et les fantômes des remontada, c'est quelque chose qu'on évoque systématiquement avec le Paris Saint-Germain et qu'on soupçonne beaucoup moins du côté du Barça. Alors tu viens de me le dire, la presse catalane a bien reçu ses propos parce qu'il y a cette volonté d'aborder différemment les matchs, mais est-ce que dans les faits, tu sens un Barça, un Xavi, un effectif très confiant, sûr de leur force avant d'aborder cette échéance ?
En tout cas, ce qui se ressent, c'est que c'est un effectif qui est très nouveau, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe et ou d'arrivants qui n'ont pas connu toutes ces défaites et ces humiliations presque en Ligue des Champions, qui arrivent avec un peu de sang neuf et un peu d'énergie nouvelle. Donc il y a moins cette peur. D'ailleurs, si on voit ceux qui se déclarent les plus confiants, les qui ont hâte de jouer ces matchs-là et tout, ce sont globalement les jeunes. Il y a Fermín López aussi, notamment, qui l'avait dit. Et le seul qui avait calmé un peu, qui avait dit « bon, doucement quand même, on va jouer le PSG, c'est pas n'importe qui et tout », c'était Marc-André Ter Stegen. Donc voilà, lui, il est aussi dans son rôle de capitaine, mais il a vécu tous les traumatismes qu'a pu vivre le Barça ces dernières années en Ligue des Champions. Donc voilà, il y a une bascule qui est un peu en train de changer, c'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup plus de joueurs dans l'effectif qui avaient vécu toutes ces sales périodes en Ligue des Champions avec le Barça. Et maintenant, on a des jeunes qui arrivent et qui, eux, s'en fichent un peu. Et certains, en plus, sont des Barcelonais, des Catalans depuis tout petit et ont vécu ça, mais l'ont encaissé avec rage. Et de se dire, bon, bah maintenant, c'est à notre tour et on va faire mieux, entre guillemets, que nos prédécesseurs. À l'échelle globale de l'effectif, on a l'impression qu'il y a une confiance qui se dégage. Alors à voir qui a le plus d'influence au sein du vestiaire, parce que évidemment quand on a Ter Stegen qui dit doucement les gars, c'est quand même important, ouais, dans le vestiaire, mais on sent quand même un Barça beaucoup plus positif sur son parcours en Ligue des Champions qu'il pouvait l'être ces dernières années, et notamment parce qu'il y avait aussi pas de Ligue des Champions.
Effectivement, ça aide. On précise que dans les matchs compliqués, les périodes compliquées qu'on a évoquées, on parlait de la remontada subie contre Liverpool et contre l'AS Rome.
Oui, exactement. Qui et avait... les matchs perdus largement contre le Bayern Munich deux saisons consécutives.
Effectivement. Peut-être pour terminer, tout à l'heure, on a évoqué avec Elton les retrouvailles entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait parler un petit peu en Espagne, de même que les retrouvailles avec Luis Enrique? J'imagine que c'est peut-être encore plus pour Luis Enrique d'ailleurs.
Oui, exactement. C'est les retrouvailles avec Luis Enrique qui font davantage parler, parce que la presse catalane a toujours un peu défendu Luis Enrique, même pendant qu'il était sélectionneur de l'Espagne et qu'il était vivement critiqué par la presse madrilène. Donc il y a une sorte d'affect quand même très fort entre la presse catalane, même le public barcelonais et Luis Enrique. Faut pas oublier qu'à un moment donné, on a quand même cité son nom du côté du Barça pour remplacer Xavi à la fin de la saison. Donc c'est surtout ces retrouvailles avec Luis Enrique qui vont être scrutées, les mots qu'il va pouvoir avoir sur le Barça en conférence de presse avant, après la rencontre. Donc tout ça, ça va être très scruté. Les retrouvailles avec Ousmane Dembélé sont beaucoup moins médiatisées. Ouais. Disons que ça avait été un joueur important, surtout pour les entraîneurs, quand il est passé au Barça, qu'il a eu un moment quand il était en pointe avec, dans un 4-4-2 avec Koeman, un rôle très important. Il avait marqué beaucoup de buts importants. Mais on va dire que sa trace dans l'histoire du Barça a vite été oubliée, et les supporters barcelonais, je pense, seront très contents s'il fait un mauvais match. Il n'y a pas vraiment d'affect avec ce joueur-là.
tout petit mot, on va sortir un petit peu de notre prisme Ligue des Champions, un tout petit mot pour conclure, parce qu'il s'est quand même passé quelque chose d'important ce week-end en Espagne, c'est la victoire de Bilbao en Coupe d'Espagne contre Mallorca. Vraie récompense pour un vrai club de coupe, en fait.
Oui, ça fait des années que Bilbao échoue en finale de coupe, ou alors passe vraiment pas loin, même que ce soit en super coupe aussi. Donc c'est une sacrée récompense. C'était presque leur match le plus facile de leur campagne en Coupe du Roi, parce qu'ils ont quand même sorti l'Atlético, le Barça, et là ils affrontaient Mallorca, qui est au milieu de tableau en Liga, et qui réalise pas forcément une très bonne saison, qui a beaucoup de mal notamment à se procurer des actions offensives. Mais là, voilà, ils ont enfin réussi. Il a quand même fallu aller jusqu'au tir au but, et très tard, parce que le match en plus a commencé à 22h. Mais c'est une belle récompense. Ça récompense aussi tout le modèle qu'il y a derrière l'Athletic Club. On voit à la fin des Iñaki Williams qui pleure avec son frère. Enfin, c'est vraiment des très belles images, comme on a peu l'habitude de le voir finalement. C'est parce que c'est au-delà même de ce que peut faire par exemple un FC Barcelone, où il y a beaucoup de joueurs formés au club. Là, ils sont quasiment tous formés en club, ou à minima ont grandi ensemble dans les clubs voisins du Pays Basque, puisqu'ils sont tous issus de la région. Donc c'est une très belle histoire, et puis ce sera l'occasion pour eux de ressortir la Gabara, qui est le bateau qui traverse la ville lors des titres, et ça fait 40 ans qu'ils attendaient de le ressortir, parce que la dernière fois que Bilbao a gagné la coupe, ils voulaient faire sortir les joueurs sur un bus à Impérial, et ils n'avaient pas de bus à Impérial, donc ils ont sorti le bateau qui a traversé la ville, et c'était un peu un mythe depuis cette Gabara auprès des joueurs, notamment les plus jeunes. Nico Williams a dit en fin de match que c'était le mot tabou au sein de l'effectif, qu'ils ne voulaient pas en parler, et là maintenant ils peuvent, et donc ce sera jeudi, on aura sans doute des très très belles images de célébration avec les joueurs de l'Athletic sur le toit du bateau qui vont défiler au milieu de Bilbao.
Bon, on surveillera ça jeudi, mais avant ça, on surveillera beaucoup plus ce qui va se passer mercredi entre Paris et Barcelone. On le rappelle, quart de finale de Ligue des Champions. Merci beaucoup Anna pour tous ces éclairages, et on se retrouve à coup sûr lundi prochain pour parler de ce qui s'est passé dans ce match. Allez, salut Anna. On bascule en première ligue pour terminer ce tour d'Europe, parce qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions dans la vie, il y a aussi ce qui se passe du côté de l'Angleterre, et qu'on prend un plaisir fou à suivre chaque week-end. Dimanche, cette nouvelle journée de championnat anglais nous a offert un choc entre Manchester United et Liverpool, qui s'est terminé sur un match nul de partout. Philippe, on en parlait avant d'enregistrer l'émission, petit hold-up de United, on se demande encore comment Liverpool n'a pas gagné ce match, surtout au vu de la première période.
C'est assez dingo, parce que quand on regarde la première période, c'est 14 tirs à zéro. Tu as les occasions de Szoboszlai, avec le sauvetage, la magnifique parade dans le passage de Onana, mais un nombre d'occasions absolument invraisemblables. Et puis après, tu as le Darwin Núñez en position de tir qui décide de centrer, le ballon sort en corner. Enfin, quand on ajoute toutes les... Luis Diaz, à la toute fin de la rencontre, il a encore l'occasion de faire ça 3-2 pour Liverpool, auquel cas on n'a pas du tout le même discours après cette journée que nous avons maintenant. Non, mais c'était en effet un hold-up. D'une certaine manière, ça illustre assez bien ce qu'est Manchester United cette saison, c'est-à-dire que c'est une équipe qui n'a pas de fond de jeu, c'est une équipe de moment. C'est-à-dire, il y a le moment où Kansa, il a un égarement, on va dire, il n'a pas vu Bruno Fernandes qui était en embuscade, il fait une passe latérale pas assez appuyée, mais il faut quand même toute l'astuce de Fernandes d'une part pour, anticiper, et puis ensuite faire la frappe de l'extérieur du droit pour tromper Keller, c'est la seule façon dont il peut le faire. Bon, mais c'est un moment. Ensuite de quoi, on voit l'une des révélations de la saison, Kobbie Mainoo, qui nous sort une frappe de fou de l'extérieur de la surface, 2-1 pour Manchester United, et on ne comprend pas vraiment, parce que, très honnêtement, Manchester United n'a rien offert, rien donné, avec des performances individuelles parfois risibles, celle de Maguire au cœur de la défense centrale. Ouais. Je pense que si j'étais Gareth Southgate, j'aurais des cauchemars. Quand je vois ce joueur, le nombre de ballons qu'il perd, les décisions invraisemblables, bref. Mais malgré tout, au définitif, Liverpool n'a pris qu'un seul point. Et prendre un seul point, ça veut dire se retrouver derrière Arsenal au classement. Alors, à la différence de buts, ça va peut-être finir au nombre de buts marqués tel que c'est parti. Hein.
Ouais,
71, 71, 70.
On rappelle
C'est dingo.
effectivement le classement. Arsenal qui a repris la tête, 71 points avec 50, plus 51 de différence de but. Liverpool à égalité de points avec plus 42. Et City qui est un tout petit point derrière avec plus 40 de différence de but. Effectivement, est-ce que cette course complètement dingue, elle va finir par se jouer à la différence de but? Et est-ce que les calendriers qui diffèrent pas mal entre ces trois équipes vont aussi venir mettre leur grain de sel?
Écoute, oui. Alors, bien évidemment, comme chaque semaine, j'ai regardé de nouveau mon calendrier et voir ce qui leur, quel est ce qui est au menu pour ces équipes. Il y a encore 7 matchs de championnat, hein, mine de rien. Hein.
Ouais, 21 points.
Et alors, il y a les compétitions d'Europe européenne qui compliquent la chose, puisque Arsenal joue contre le Bayern mardi soir, le même soir au passage où Manchester City joue contre le Real Madrid. Alors que Liverpool joue contre Atalanta en Europa League jeudi. A priori, ce n'est pas tout à fait la même chose, la type de position. Et je dirais même que si Liverpool, aujourd'hui, devait sacrifier l'Europa League pour un 20e titre de champion qui, au passage, égalerait le record de Manchester United, je pense qu'ils signeraient les deux mains et les deux pieds si jamais ils arrivent à signer avec leurs pieds. Mais c'est encore plus compliqué que ça, parce que n'oublie pas qu'il y a deux demi-finales de FA Cup entre Manchester City et Chelsea, qui fait qu'on doit reporter le match des Citizens contre Tottenham. Et j'ai regardé partout ce matin, on n'a pas encore de date. On n'a pas encore de date, nous sommes le 8 avril, on est à quoi? À un gros mois de la fin de la compétition, et on a ces matchs qui n'en finissent pas. Alors, je ne te raconte pas, la série d'Arsenal, et c'est là où ça va jouer, tu regardes le 17 avril, ils jouent le match retour donc au Bayern. Le 20, ils sont chez les Wolves. Le 23, ils reçoivent Chelsea et ils embrayent avec un déplacement à Tottenham pour le derby du nord de Londres. Et en fait, c'est cette période-là qui va être absolument cruciale, parce que dans le même temps, tu as Liverpool qui a 3 matchs à l'extérieur de suite. Fulham, Everton, donc le derby de la Mersey, qui est toujours un peu chaud, et puis West Ham. West Ham qui, mine de rien, est en train de retrouver des couleurs et se bat pour une place en Europe. Tu regardes à côté de ça le calendrier de Manchester City, qui au passage n'a pas été flambant, mais on va en reparler contre Crystal Palace. Eux, pendant ce temps-là, bon, ils ont leur demi-finale de Cup contre Chelsea. Tu peux imaginer qu'ils ne vont pas mettre l'équipe A, même si c'est une demi-finale de Cup, je pense qu'il va pouvoir faire tourner un petit peu. Donc, un avantage de ce côté-là. Et puis, Forest, Brighton. À l'extérieur, ça c'est un peu compliqué, même si Arsenal a vraiment très très bien fait le boulot ce samedi. Forest qui se bat pour sa survie. Wolves, tu te dis quand même, tu regardes ça, tu te dis Manchester City, ils sont un point derrière. Mais on imagine très très bien, très facilement, Arsenal ou Liverpool lâcher encore des points dans ce sprint final. Quand on regarde le calendrier de Manchester City, la seule chose, je me dis, c'est ce match contre les Spurs. Qui est chez les Spurs, mais qui est encore à déterminer, et peut-être ce qui pourrait les faire dérailler. Enfin bon, je dis ça, est-ce qu'on s'attendait à ce que Crystal Palace fasse souffrir Manchester City comme ils l'ont fait, en première période en tout cas? Peut-être pas, même si c'est une équipe qui se défend bien face aux Citizens. Mais bon, tel que c'est parti, tu vois, tu donnes encore, malgré le retard au classement, tu dis Manchester City, à cause de ce résultat justement de Liverpool, si Liverpool l'avait emporté à Old Trafford, tu continuerais de donner Liverpool favori. Là, les choses ont changé, mais elles ont changé jusqu'au week-end prochain, où nous tiendrons sans doute un discours complètement différent lundi prochain.
Effectivement, c'est la beauté de ce
championnat.
Pour notre
plus grand bonheur.
Bien sûr, c'est la beauté de ce championnat. Et ce qui fait la beauté de ce championnat aussi, ce sont certaines de ses individualités. On parlait de Manchester City. Il y a un joueur qui brille. On s'en parlait juste avant. L'un comme l'autre, on n'a plus les mots pour qualifier Kevin De Bruyne, mais c'est quand même toi qui vas devoir en trouver, Philippe. Oui. 99e et 100e but inscrit ce week-end avec Manchester City par le Belge. Un doublé absolument extraordinaire. Où est la place de Kevin De Bruyne? Alors, c'est même plus seulement dans l'histoire de City qu'il faut le classer, mais dans l'histoire de la Première Ligue et dans le gratin du football européen. Où est-ce qu'on met De Bruyne?
On met dans le 11 de départ, je pense. À savoir que... Alors d'abord, il faut lui trouver une place, ce n'est pas nécessairement évident, mais on va lui donner... On lui met une place dans le 11 de départ de Manchester City, ça va de soi. Au passage, on versera une petite larme, une larme de crocodile pour Chelsea, qui ont quand même laissé partir ce garçon. Il fallait quand même le faire. Pour ce qui est de la première ligue, je pense qu'il a sa place dans le 11 de départ dans le 11 idéal de la première ligue depuis sa création. Je te dirais même qu'on pourrait même peut-être prendre l'ensemble du. Ne parlons pas seulement de la première ligue, le football existait avant 1992 et il est candidat à une place dans le 11 de départ ou dans quelque équipe que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, quand on entendait Pep Guardiola en parler, on le sentait confit d'admiration. Tu auras vu d'ailleurs la réaction de Guardiola lorsque Kevin De Bruyne marque son premier but, la façon dont il applaudit, envoie un baiser, etc. C'est-à-dire que c'est un but venu d'ailleurs, c'est un joueur venu d'ailleurs, et en même temps, c'est un joueur qui est vraiment d'ici-bas. C'est ça qui est extraordinaire chez Kevin De Bruyne, et je crois qu'il fait que on ne se rend peut-être pas suffisamment compte de ce que ce joueur est. C'est que c'est quelqu'un qui est tellement humble dans sa façon d'approcher son métier. Et la façon d'approcher les médias également et les fans, c'est quelqu'un qui est tellement simple, naturel dans sa façon de gérer, c'est quelqu'un qui est tellement transparent au niveau des émotions, mais qui n'est pas quelqu'un d'excessif, qui n'est pas un grognon, etc. Et du coup, on a du mal à s'imaginer à mettre en rapport cet homme très intelligent, au passage parlant trois ou quatre langues absolument couramment. Mais c'est vraiment un homme normal, c'est un homme comme toi et moi, comme tout le monde, mais qui a ce talent absolument extraordinaire, ambidextre au passage, comme on l'a encore vu ce week-end, et puis qui va nous marquer 100 buts en 372 matchs alors qu'il joue milieu de terrain. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui vont dire ça. Et en plus de ça, ces 100 buts, à mon avis, il aurait pu les inscrire beaucoup plus tôt parce que, mine de rien, n'oublions pas Kevin De Bruyne, c'est aussi quelqu'un qui s'est battu contre les blessures dans sa carrière. C'est quelqu'un qui a eu trois saisons tronquées à Manchester City, la dernière étant celle-ci. Et d'autres joueurs auraient pu les casser, pas Kevin. Kevin, quand il est revenu de sa longue blessure pour participer à cette campagne de Manchester City, où il pourrait bien être l'élément déterminant, comme il l'a été contre Crystal Palace ce week-end, d'autres joueurs auraient pu être dans un trou noir, la déprime, tout ce qu'on voudra. Pas De Bruyne. De Bruyne, il dit, ben non, je vais profiter de cette blessure pour emmener mes enfants à l'école, vivre une vie normale. Et c'est cette façon d'équilibrer la normalité et j'allais dire l'exceptionnalité qui rend De Bruyne pour moi encore plus grand. Parce qu'il sait tout faire sauf jouer de la tête. Ça, par contre, il n'est pas bon. Ça, il n'est pas bon du tout. Mais tout le reste, pour ce qui est de la vision du jeu, je pense que moi, je vois un seul joueur qui puisse lui correspondre pour la vision du jeu, c'est Dennis Bergkamp. Et quiconque me connaît et connaît l'amour que je voue à Dennis Bergkamp, c'est que c'est un compliment, ça va très très haut. C'est une forme d'intelligence du jeu qu'on trouve chez les grands meneurs comme Michel Platini, justement, ou Dennis Bergkamp, à mon avis, meilleur qu'Andrea Pirlo, par exemple. Mais il est dans cette classe-là. C'est tout simplement extraordinaire, profitons-en. Il est quand même plutôt jeune, notre Kevin. Il est dans sa 33e année, si je ne m'abuse. Il ne va pas être éternel, mais on souhaiterait qu'il le soit, parce que très honnêtement, ce qu'il nous a encore offert, ce qu'il nous offre en ce moment, ce qu'il nous offre tous les week-ends, c'est absolument exceptionnel. Et ce qui est invraisemblable, c'est qu'il finira sa carrière sans avoir été footballeur de l'année en Angleterre. Dur, hein, quand même.
C'est vrai que c'est assez dit comme ça, c'est étonnant.
C'est dingo parce qu'il y a eu Mohamed Salah, parce qu'il y a eu N'Golo Kanté, parce que Erling Haaland, etc., parce que les saisons sont tronquées. Là, par exemple, il se peut que Kevin De Bruyne soit l'homme qui donne le titre à Pep Guardiola et à Manchester City. Il ne sera pas footballeur de l'année pour autant. Pourquoi? Parce qu'il a loupé les deux tiers de la saison. Et ça a toujours été comme ça. Et il finira sa carrière sans avoir été footballeur de l'année en Angleterre, alors qu'il est tout simplement l'un des meilleurs joueurs que le football anglais ait jamais connu. C'est ça aussi le paradoxe Kevin De Bruyne.
Peut-être un tout petit mot
Et
pour
il
finir.
n'aura pas été ballon d'or, sauf si jamais, bien évidemment, ils font le triplé
On ne
auquel
sait
cas,
pas ce que
j'espère
nous
que.
réserve effectivement cette fin de saison et notamment ce quart contre le Real où il a souvent martyrisé le Real Madrid d'ailleurs, Kevin De Bruyne. Peut-être un petit mot parce que tu parlais aussi de Guardiola. On a très souvent loué Pep Guardiola pour sa capacité à faire progresser ses joueurs. Est-ce que c'est ça aussi l'histoire de De Bruyne, l'influence de Guardiola, ou est-ce qu'on prend un peu plus de recul par rapport à ce joueur-là qui était déjà un excellent joueur avant de rencontrer Guardiola?
Alors, il se trouve que moi, je connais des gens qui connaissent le Kevin depuis qu'il a 12 ans, à peu près 12 ans, et qui sont occupés de lui à Genk. Et ces gens m'ont raconté comment, même à cet âge-là, ils s'étaient rendus compte, parce qu'ils font beaucoup de tests psychomoteurs dans les clubs belges, je dirais, à l'époque, ils étaient en avance sur nous, et un peu sur tout le monde, Et il disait que Kevin De Bruyne avait une vision du jeu et une rapidité de pensée qui était non seulement exceptionnelle, mais qu'il n'avait jamais vue auparavant et qu'ils n'ont jamais revue depuis. C'est-à-dire qu'on a affaire à un joueur d'exception à ce niveau-là. Donc, on l'a toujours su. Quand il était à Gent, c'était une merveille. Quand il était à Wolfsburg, c'était une merveille. Ouais. C'est simplement que Chelsea n'a pas su saisir sa chance et qu'il est tombé avec Guardiola, même si sa relation avec Guardiola, elle est parfois un petit peu tendue. Hein. On les a vus avoir des mots, mais c'est des mots d'égal à égal. C'est un très grand entraîneur qui parle à un très grand joueur. Et un très grand joueur qui a, en plus de ça, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est quelqu'un de normal. C'est-à-dire que quand il va gueuler avec Pep Guardiola, c'est pas un caprice de star. C'est juste un joueur qui adore le foot, qui veut continuer de jouer au foot, il veut être sur le terrain et il ne comprend pas. Parce que dans son esprit, il peut faire mieux, il peut donner mieux, etc. Oui, frustré avec lui-même. Et en effet, la rencontre est parfaite. Même si Manchester City, j'ai vu des stats assez étonnantes qui montraient que quand Kevin De Bruyne n'est pas dans le 11 de départ de Manchester City, en fait, le nombre de points par match des Citizens est quasiment le même que lorsqu'il est là. Ce que, bien évidemment, les chiffres ne disent pas, c'est qu'il y a des matchs comme celui de Crystal Palace où, quand il n'est pas là, ça fait une différence énorme. Et où il fait la différence à lui tout seul. Et l'autre chose, c'est que on ne se rend peut-être pas suffisamment compte de la façon dont il est en fait celui par qui les combinaisons passent. L'une des raisons pour lesquelles Erling Haaland connaît une saison difficile, attention, par ses standards, hein, c'est le fait que tout simplement Kevin De Bruyne n'était pas là.
Ouais.
Kevin De Bruyne était le joueur qui savait le trouver, le joueur qui avait, je veux dire, les passes en première intention de Kevin De Bruyne, je ne connais pas grand-chose de plus beau que ça à voir pour quiconque aime le football, c'est l'intelligence du football fait homme. Donc oui, Guardiola, bien évidemment, a exploité ça, Guardiola lui a permis de s'exprimer, de s'épanouir et tout ça, mais le joueur Kevin De Bruyne, ouais. Il est comme ça depuis toujours.
Il partait avec un sacré bagage. Bon, on aura beaucoup, beaucoup de plaisir à le suivre contre le Real Madrid, semaine exceptionnelle de Coupe d'Europe. Qui nous attend. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces analyses, ces éclairages, et puis on se retrouve lundi prochain pour continuer de se régaler sur la Première Ligue et la Ligue des Champions. Très belle fin de saison qui nous attend et bonne semaine à toi Philippe. Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie Simon Farvac à la réalisation et Marco Popovic au visuel. Il nous reste seulement à vous souhaiter une excellente semaine de football, mais pas que, parce que vous le savez, sur Eurosport, il y a aussi le tennis avec l'ATP de Monte Carlo cette semaine à suivre sur Eurosport, mais aussi du cyclisme avec l'Amstel Gold Race. Voilà, vous avez de quoi vous occuper en plus des matchs européens alléchants de la semaine. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Merci pour votre fidélité. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.